selon Hubert Védrine.
Bonjour Hubert Védrine.
Bonjour.
Cette semaine, la francophonie est à l'honneur. Lundi d'ailleurs, nous étions à l'Organisation internationale de la francophonie. On termine cette semaine avec vous pour parler de la francophonie.
Oui, je souhaitais revenir sur ce thème de la francophonie, dont j'avais déjà parlé il y a quelques années, mais ça reste un thème important, et mettre en avant quelques réflexions. D'abord, je voudrais redire que c'est un immense atout, un peu négligé, un peu sous-estimé par les élites françaises. Je ne parle pas des organismes spécialisés, hein. Mais c'est un immense atout, parce qu'il y a dans le monde environ 300 millions de personnes, presque 300 millions, qui parlent le français. Et dans un monde où il y a une bataille pour la diversité culturelle et linguistique contre l'uniformisation, c'est un atout important. Or, les élites françaises, politiques mais surtout économiques, ont toujours retraité ça par-dessus la jambe en considérant que c'était archaïque et dépassé. C'est pas archaïque, c'est pas ringard, c'est très important, c'est un élément d'avenir, c'est un élément de rayonnement, c'est un élément de soft power, pour précisément parler franglais. Et je crois qu'il faut l'avoir en tête. D'ailleurs, le rapport d'il y a quelques mois de Jacques Attali montrait bien que si on additionne francophonie et francophilie, ça donne un élément considérable de rayonnement pour la France, qui est à 196 pays dans le monde, et il n'y a pas beaucoup de pays qui ont ce rayonnement. Alors, tous les francophones ne sont pas francophiles, et tous les francophiles ne sont pas francophones, mais enfin, on peut quand même combiner les deux éléments. D'autre part, on voit bien dans un pays qui est tellement convulsé et incertain sur son histoire, son identité, sa position actuelle, l'avenir, que finalement, la langue, c'est quand même le cœur ou un des éléments vitaux de l'identité. Donc c'est un élément tout à fait fort. Et l'organisme auquel vous faisiez allusion avait été créé, fait des sommets, en tout cas avait été créé par François Mitterrand. C'est une idée qu'a vu Georges Pompidou. Et puis finalement, quelques années plus tard, c'était François Mitterrand pour que les pays qui parlent français mettent tout ça en commun. Bon, mais après ça, une autre remarque. Depuis une vingtaine d'années, il y a l'idée, notamment dans les organisations internationales francophones, de mettre en avant la dimension économique de la francophonie. Puisqu'on parle la même langue, développons nos relations économiques. Puisqu'on parle la même langue, adoptons des positions politiques, faisons des déclarations sur tous les sujets du moment, à la mode ou qui sont bouleversants, etc. Une sorte d'ONU, vous voyez, un peu plus particulière, et qui s'exprime sur tous les thèmes du moment, qui est une sorte d'organisme réactif sur les thèmes à la mode. Bon, tout ça est très bien, c'est assez sympathique, ça peut donner de bons résultats, y compris sur le plan économique. Mais je voudrais dire que c'est très bien si on n'oublie pas la condition préalable, c'est que la francophonie doit être linguistique. Pour commencer, c'est une tautologie, c'est une remarque de la police, mais s'il n'y a pas dans le monde un désir d'apprendre le français, en plus de la langue que parlent déjà les gens, y compris l'anglais dans les pays anglophones, s'il n'y a pas les moyens de l'apprendre, les possibilités, ce que dit Jérôme Clément sur le potentiel et l'attractivité des alliances françaises, par exemple, est tout à fait intéressant à cet égard. Donc il faut se rappeler de ça. Il faut ne pas oublier, même si ce n'est pas le même sujet, la question de la qualité du français que l'on parle en France. Et à cet égard, les médias ont une influence énorme à avoir, parce que les gens parlent un peu comme dans les médias. Et on ne peut pas non plus se fonder que sur l'augmentation démographique des populations en Afrique. Il ne suffit pas de dire, oui, ben, plus tard, ils sont tellement nombreux qu'en 2050, il y aura 700 millions de gens qui vont parler le français. Il ne faut pas lâcher sur le français en Europe, y compris dans l'Union européenne. Il ne faut pas lâcher sur le français dans les organisations internationales. Or, on a perdu un terrain énorme au cours de ces dernières décennies, même si maintenant on ne recule plus. Il ne faut pas lâcher sur le désir de français dans les pays anglophones. Donc voilà ce que je voulais dire en plus, même si je trouve très bien ce qui est fait par les organisations. Le thème adopté par l'ensemble, je crois, des ambassadeurs de pays francophones cette année, c'est le pouvoir des mots. Vous avez dû en parler lundi. Ça peut que nous parler. Précisément.
Absolument, avec une illustration, Hubert Védrine, qui vous parle, le fait que le Maroc ait décidé de faire du français une langue officielle pour l'enseignement, une décision importante, peut-être pas assez commentée en France.
C'est très important parce que dans beaucoup de pays arabes, il y a eu, notamment au Maghreb, chez nos amis maghrébins, il y a eu des batailles depuis l'indépendance entre ceux qui voulaient tout arabiser et ceux qui voulaient garder la réalité qui était que toutes les élites de ces pays parlaient français. Et souvent d'ailleurs un très bon français quand on voit la qualité des romanciers maghrébin, c'est tout à fait frappant. En Algérie, il y a eu des batailles sur ce point, au Maroc aussi. Alors évidemment, les modernes disent oui, mais l'arabisation était une catastrophe, on est obligé de faire venir des professeurs du Moyen-Orient qui ne parlent pas le même arabe que l'arabe maghrébin, donc c'est une catastrophe, donc c'est un élément de régression. Et d'autres disent mais non, pas du tout, cette vision est néocolonialiste. Bon, c'est une bataille sans fin, et c'est important pour nous de relever que le Maroc assume tranquillement cet élément.
Choix politique fort.
C'est un choix politique, mais déjà au Maroc, l'ensemble, même pas les élites, mais la bourgeoisie marocaine, même la moyenne bourgeoisie, tous ces gens n'ont qu'une idée, c'est de mettre leurs enfants dans les établissements français. Donc c'est une réalité, ça ne veut pas dire qu'ils ne parlent pas arabe, c'est une ambition biculturelle. D'autant qu'au Maroc, je termine là-dessus, déjà le roi Mohamed VI a reconnu il y a quelques années, enfin a facilité, a officialisé l'usage du berbère en plus. Donc vous avez souvent des gens qui parlent trois langues. On devrait en prendre de la graine parce qu'ils parlent bien trois langues.
Merci beaucoup Hubert Védrine. Une chronique à retrouver sur le site de France Culture, franceculture.fr, où l'on peut également la télécharger.